émission spéciale « Mutation et valeur immobilière du résidentiel » en partenariat avec Galtier Valuation sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette émission spéciale proposée en partenariat avec Expertise Galtier, dont fait partie, Galtier Valuation. On va tout savoir évidemment sur le groupe, mais plus encore sur ce sujet, mutation et valeur immobilière du résidentiel. Eh bien, vous le savez effectivement, à la suite de la crise sanitaire, les modèles immobiliers n'en finissent plus de se réinventer. On va faire un tour d'horizon des mutations à travers deux grands thèmes, la transformation des bureaux en logement et le boom des résidences secondaires ou encore les nouvelles habitudes de résidence. Une table ronde qui est animée par des experts en évaluation immobilière. On a le plaisir d'accueillir Patrick Borghetti, le directeur du développement de la clientèle institutionnelle de Galtier Evaluation. Bonjour Patrick.
Bonjour Fabrice.
Et Baya De Riche, la responsable des études immobilières, toujours chez Galtier Evaluation. Bonjour Baya.
Bonjour Fabrice.
Alors en préambule et en introduction, pour que tout soit clair, on va resituer Galtier Evaluation, qui, je le disais, fait partie du groupe Expertise Galtier. Patrick.
Alors Galtier Evaluation, effectivement, comme vous le disiez Fabrice, c'est l'un des trois métiers d'Expertise Galtier. Donc, pour notre part, nous nous occupons, comme le nom l'indique, d'évaluation immobilière et uniquement d'évaluation immobilière. C'est non seulement notre cœur de métier, mais notre métier seul et unique, puisque nous ne commercialisons pas. Et donc, notre seul objectif, c'est d'expertiser des biens immobiliers, tant en valeur vénale qu'en valeur locative. C'est une activité qui est arrivée dans le groupe Galtier plus récemment que l'expertise Galtier historique, puisque l'expertise Galtier, la date de création remonte, je dois vous le rappeler, à 1894. On était encore au 19e siècle.
Et quand même,
ça commence à devenir une société antédiluvienne eu égard au paysage des sociétés qui se renouvellent aujourd'hui.
C'est intéressant,
aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, enfin les premiers métiers du coup.
À l'époque, on faisait de l'expertise sinistre.
D'accord.
C'était non pas une expertise triste, mais une expertise pour les incendies qui, notamment, puisque c'est une société qui trouve son origine dans le nord de la France, donc on faisait des expertises à ce titre et donc pour ce qu'on appelait l'expertise d'assuré, c'est-à-dire qu'on intervenait aux côtés des assurés pour permettre un remboursement optimal des dégâts qui avaient pu être causés par des incendies. Voilà. Et donc par contre la filière évaluation immobilière, elle est de réalisation ou d'implantation ou de création plus fraîche, puisque 1980 à peu près, donc effectivement, on est rentré dans ce métier qui aujourd'hui constitue le deuxième métier d'expertise Galtier en termes de production et de chiffre d'affaires.
Très bien. Baya, un petit mot à ajouter où le panorama est complet. Aujourd'hui, en 2021, tiens, où est-ce qu'on en est? En tout cas, dans votre division Galtier Evaluation.
Ce qu'on peut compléter, c'est de dire qu'effectivement, mais Patrick a déjà tout dit, c'est on intervient pour l'évaluation de tout type d'actifs. Donc que ça soit de la logistique, du résidentiel, de l'hôtellerie, enfin tout ce qui est immobilier loisirs, santé, immobilier tertiaire. Et c'est effectivement pour travailler avec différents acteurs selon différentes hypothèses. Donc ça peut être pour des écritures comptables, j'ai envie de dire, ou pour l'obtention d'un prêt. Ça peut être aussi pour l'aide à l'arbitrage. Donc on travaille beaucoup avec des grands groupes. Hein. C'est à peu près 90% de notre chiffre d'affaires. Et donc on est vraiment axé sur des types d'actifs avec des portefeuilles plus ou moins importants. Mais on travaille également, si on reprend le volet résidentiel, ça va couvrir tout ce qui concerne le haut de gamme, le logement social ou tout ce qui est immobilier géré ou immobilier loisir. Donc voilà, on a une palette très très large. En fait, c'est simple. Dès qu'il y a une expertise en valeur immobilière à réaliser, on peut solliciter le groupe Galtier. On intervient également pour les valeurs foncières. Hein. Après, il y a des, Il y a des actifs un peu atypiques, les terrains de golf, ça peut être les forêts. C'est tous les sujets qui peuvent impacter une valeur. Il y a un sujet qui me vient comme ça à l'esprit pour montrer le côté atypique auquel on peut être confronté.
Oui, un exemple.
Un exemple, c'est vous avez une résidence haut de gamme. Il y a un terrain central dans lequel il y a un magnifique platane qui est au milieu. Quid si ce platane venait à s'effondrer, est-ce qu'on a une perte de valeur ? Voilà. Donc, ça peut être également une demande de valeur. Donc là, ça va rejoindre notre sujet. De la mutation, de leur transformation d'un actif, de bureau en logement. Quid de la valeur si, dans l'hypothèse que cette transformation est possible, de ces mètres carrés qui étaient du tertiaire qui se transforment en résidentiel.
Alors justement, excellente transition, Bayadarich, bravo. C'est notre premier sujet, transformation des bureaux en logement. On voit effectivement que c'est une tendance qui est en train de s'accélérer, mais attention, pas partout. Il faut quand même préciser que c'est peut-être quelque chose qui est réservé là où il y a quand même un parc important, pour des villes importantes, une demande importante. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, une tendance lourde, ou c'est un épiphénomène ? Et on va rentrer dans le concret après votre avis sur ce qui se passe en moment, bureau, logement, cette histoire de réversibilité dont on entend beaucoup parler.
Alors, épiphénomène, je ne crois pas. Par contre, tout de même, il faut proportionner. C'est-à-dire que l'intention est noble, l'équation économique, elle est vertueuse, mais elle trouve son aboutissement dans le bilan que va établir le promoteur ou le marchand de biens. Comme vous le disiez à l'instant, oui, mais pas partout. Puisque au final, vous avez, la conjonction de deux volontés. La première, c'est d'un opérateur, qui est celle d'un opérateur, de réaliser une opération de restructuration, rénovation, promotion. Et puis la deuxième, c'est le vendeur. Le vendeur a des attentes et le promoteur, lui, il se trouve confronté aux exigences du marché. Là, comme j'ai coutume de le dire, la valeur n'est pas le prix qu'attend le vendeur. La valeur, c'est celle qui, c'est la définition de la valeur vénale dans la charte de l'expertise, c'est le prix qui peut être espéré. Et donc ce prix espéré, il est en liaison notamment avec des phases de commercialisation. Et c'est la commercialisation qui maîtresse. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu redondant que de dire cela, mais puisqu'effectivement, le moindre projet de promotion immobilière qui est mis sur le marché trouve preneur en très très peu de temps, on voit bien le succès des opérations de crowdfunding immobilier, les opérations de financement partent très très vite, des fois en 5 minutes. Pour les bonnes opérations, ça part très très vite. Mais même pour des opérations, récemment j'ai vu des opérations, bon, on ne citera pas le secteur pour ne froisser personne, mais en tout cas en périphérie d'une petite métropole régionale, où l'opération est partie en une demi-heure.
D'accord, voilà. Incroyable.
Pour répondre à votre question, bien évidemment, l'opérateur va faire tourner ce qu'on appelle son bilan promoteur ou son bilan marchand de biens. Et donc, il va mettre en phase les recettes qu'il est susceptible d'attendre. Et de l'autre côté, les débours qu'il va engager. Et dans ces débours, bien évidemment, il y a le prix d'achat du terrain ou de l'immeuble, en l'espèce de l'immeuble. Donc ça, c'est déjà le premier élément qui est important. Deuxième élément, comme vous l'évoquiez à l'instant, c'est le lieu. Parce que ce genre d'opération de reconversion de bureaux qui sont devenus obsolètes en logement, il faut qu'il y en ait une transcription en termes d'existence de marché. Donc évidemment, c'est Paris. C'est la première couronne où la pression foncière est forte. Ce sont quelques grandes métropoles régionales, mais je ne pense pas que, sauf à afficher des prix extrêmement bas, vous puissiez réaliser ça dans des petites préfectures du Sud-Ouest.
Ou vraiment une valeur à la casse, parce que quand on dit transformer des bureaux en logements, ça veut dire quand même qu'il faut créer des espaces peut-être extérieurs, balcon, loggia, multiplier des pièces humides, donc cuisine, salle de bain, WC, tout ça va renchérir finalement le coût de l'opération. Si on n'a pas déjà une valeur de référence, à prix cassé ou vraiment très très basse, les coûts, surtout dans des zones tendues, à la fin, on va se retrouver sur des prix encore plus chers que ceux du marché.
Beaucoup plus cher. Et puis c'est ce que soulève Patrick, hein, c'est de dire qu'il faut faire l'équation. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, raser, reconstruire derrière ou rénover dessus lorsque c'est possible, avec les exigences de hauteur de plafond, de distribution indispensable pour le bien-être d'un logement. En réalité, la faisabilité est très complexe et ne peut être réalisée que sur certains bâtiments. Alors on cite beaucoup les bâtiments haussmanniens qui répondent effectivement à ces critères. Et parfois, la solution, c'est de raser, parce que revenons-en à un point qui est quand même assez crucial, c'est le prix du foncier. Donc une fois que j'ai un foncier et que je suis propriétaire du foncier, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de réhabiliter en faisant du logement ? Alors juridiquement, il y a beaucoup de lois. Hein. On peut citer la loi Elan qui pousse. Hein. Il y a même des élus à Paris. On essaye, mais c'est encore très, très compliqué. Mais dans les mutations qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on peut projeter et puis on peut émettre l'hypothèse que certains secteurs qui n'étaient pas prisés ou qui ne répondaient pas à la demande de logement peuvent répondre à cette demande. Et donc là, effectivement, d'avoir une autre valeur d'hypothèse qui pourrait être plus intéressante si c'est transformé en logement.
Quand vous dites rénover ou alors détruire des bâtiments haussmanniens, on n'a pas le droit. Mais on rappelle qu'à Paris, on voit souvent, on en a vu par le passé, des opérations où, vous savez, on ne voit que la façade qui est conservée. Le bâtiment est complètement évidé et reconstruit. Ça date un petit peu maintenant. C'était il y a une petite vingtaine d'années. Mais le printemps à Paris a été entièrement refait comme ça. C'était une coquille vide avec la façade qu'on a maintenue et qui est reconstruite derrière.
On est dans des restructurations lourdes où là, on est carrément au prix de construction neuve.
Plus cher, avec
des contraintes architecturales qui sont présentes. Donc oui, c'est des discours qu'on entend beaucoup. Oui, il y a peut-être une impulsion qui va être donnée par rapport aux mutations qu'on est en train de vivre avec la crise sanitaire, avec la recherche de mieux-être ou d'espaces verts qui est en train de s'accélérer de la part des citoyens.
D'accord. Donc pour résumer, Patrick, on comprend que Paris, première couronne, donc dans les marchés déjà très chers, ça peut valoir le coup, voire certaines métropoles régionales, pas partout. Est-ce que du coup, on vous appelle et vous pouvez rendre un avis finalement défavorable sur le montage financier de l'opération si vous voyez qu'on est hors budget ou...
Je dirais même, nous avons, pour ma part, je suis une clientèle bancaire assez importante, et c'est effectivement la visée première, que celle de ses financeurs, que d'entendre un avis parfaitement indépendant et impartial. Et bien évidemment, si l'opération... On travaille avec les mêmes outils que les promoteurs immobiliers. Mmh. On travaille avec un outil Excel qui nous permet de traiter les opérations de compte à rebours. Les promoteurs et les marchands de biens connaissent parfaitement cette terminologie. Et à la base de tout, dès lors que certaines règles sont respectées en termes de coûts, en termes de marge, je dirais les mathématiques sont implacables. Soit l'opération va générer une marge, on a coutume de dire que entre 8 et 12% aujourd'hui, c'est déjà assez confortable. Soit on se situe en deçà. Alors si on se situe légèrement en deçà, on est encore sur l'épaisseur du trait, et puis après tout dépend de l'ambition qui est affichée par l'opérateur et de l'envie expressément d'aller, on est en train de travailler sur un sujet, sur une grande métropole régionale, on voit bien qu'il y a eu concours de promoteurs pour monter plus haut. Bon, chacun a fait tourner son bilan avec les mêmes règles qui sont les règles posées par la puissance publique, c'est-à-dire, alors je ne vous parle pas de transformation, mais je vous parle simplement d'opérations de promotion immobilière, mais les règles étaient les mêmes, c'est-à-dire, à la base de tout, la collectivité publique dit sur cette parcelle ou sur ces parcelles, sur ce tènement, vous pouvez réaliser 2000 mètres carrés de plancher. Oui. Après, chaque promoteur fait tourner son bilan et a ses propres notions en termes de coûts. Nous avons les nôtres, puisque nous, au travers notamment de l'une de nos filiales, nous avons quand même une approche technique assez forte. Et puis, je vous le précisais à l'instant, les chiffres sont difficiles à travestir.
D'accord. Oui, les mathématiques, effectivement, sont implacables. Donc, on l'a compris. Oui, il y en a qui vont peut-être serrer la ceinture et pour que ça passe. Mais après, on peut être rattrapé par la patrouille. Surtout en ces temps de confinement, il y a des risques. Parce qu'on sait qu'effectivement, chaque mois qu'on perd, et Dieu sait si on en a perdu l'an dernier entre les deux confinements, le stop and go qu'on a connu, c'est très préjudiciable. Et là, l'équilibre peut être précaire, hein, financièrement.
Oui, il y a... En fait, aujourd'hui, on est dans une situation très particulière où il y a de la liquidité qui est en mal de placement, où il y a le sujet de la retraite aussi, hein, les investisseurs avec des volumes plus ou moins importants. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Aujourd'hui, on peut avoir un affichage de prix au mètre carré qui peut être faussé. Mmh. C'est-à-dire la difficulté, d'où le travail méticuleux de l'expert en valeur immobilière, c'est de bien placer le produit, l'actif, dans son environnement, dans un marché, mais avec une projection hors contexte, j'ai presque envie de dire. Donc, comme le disait Patrick, aujourd'hui, les biens immobiliers qui sont proposés à la vente partent de suite. On sait aussi que la crise sanitaire... On manque de produits.
Ouais. On a vu les chiffres de la construction neuve, hein, en particulier, qui sont effondrés, évidemment. Et électoral plus confinement, ça a été la double peine cette année. Clairement. Et on voit que ça ne repart pas en 2021.
Ça ne repart pas. Ce qui n'est pas construit aujourd'hui, ce sont des produits qui vont manquer demain. Donc on peut déjà anticiper un manque de produits, de logements, et avec un calcul financier qui peut être faussé. D'où la délicate fonction de celui qui est gestionnaire de patrimoine ou de la personne qui doit conseiller ou arbitrer au niveau du prix. Le prix est très complexe. Hein. Comme on disait, l'expert donne une valeur. C'est un peu comme quand vous voulez acheter une voiture, vous consultez l'Argus. L'Argus va vous dire cette voiture, elle vaut tant, tel jour. Mais vous pouvez avoir un acheteur qui a un coup de cœur et ça fait des mois qu'il recherche, des années qu'il recherche cette voiture. Et il va vous doubler la mise.
J'ai l'impression que ce que vous nous dites en creux, c'est que finalement, les investisseurs ont beaucoup d'argent à placer aujourd'hui.
Oui.
Parce que pour tout un tas de raisons, où il y a des liquidités et puis on est dans un environnement de taux bas. Donc les placements, surtout quand on est une caisse de retraite sur du long terme, ça ne sert à rien de mettre dans les obligations d'État. Mais il faut en même temps sécuriser. Donc l'immobilier, c'est pas mal. Donc tout le monde est sur le coup, finalement.
Tout le monde est sur le coup. Tout le monde est sur du prime, sur du core. Donc on a des taux de rendement qui sont vraiment très, très bas. Mais on est dans des sujets où on veut vraiment sécuriser au maximum.
Eh oui, c'est mieux que zéro, finalement.
C'est mieux que zéro.
C'est ou en négatif, hein, même.
Situation inédite. Effectivement, le questionnement premier d'un investisseur, c'est quelle allocation vais-je choisir ? Le financier, si vous n'aimez pas le risque, vous n'allez pas en bourse. Donc, tout est dit. On connaît le taux de rendement des OAT.
Les obligations assimilables au trésor. Donc,
absolument.
Le papier sans risque, puisque émis normalement par l'État, bon, français, on a une bonne note.
Absolument.
Nous, les bons élèves,
absolument.
On est normalement en capacité de rembourser grâce aux contribuables nous sommes.
Nous sommes très, très bons élèves. mais nous ne sommes pas pour rien. On participe à notre niveau. Dès lors que vous n'avez pas fait le choix de l'actif financier, vous vous orientez sur l'immobilier. Comme le disait Baya, Tout le monde veut du core, tout le monde veut du prime. Moi, je pense que, vous le disiez tout à l'heure, Fabrice, il y a un assèchement de l'offre. Il y a un assèchement de l'offre dans le neuf. Les raisons, elles sont connues. Aujourd'hui, sortir un permis, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les exigences administratives se font toujours plus grandissantes. Le placement, lui, il est très facile. Effectivement, on le constate. Je suis plus inquiet par l'assèchement de l'offre dans l'ancien.
Mais c'est pour ça que, finalement, on en revient à notre sujet, la transformation du bureau logement, sur le papier, c'est plutôt une bonne idée.
C'est séducteur.
Voilà. Alors, certains s'y engouffrent. Il faut bien faire ses calculs, on a compris. On a parlé des coûts. Néanmoins, petite question. Il y a aussi, c'est le sujet de notre émission, les mutations. Elles ne sont pas que sur l'immobilier. Elles sont aussi sur nos méthodes de travail. Aujourd'hui, vous êtes venu faire cette émission. Mais le reste du temps, peut-être en ce moment, vous êtes en télétravail. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact demain sur l'immobilier de bureau? Est-ce que si on est obligé, j'allais dire, ou si on va au bureau 1-2 jours par semaine, on va voir ce bureau ne va pas lui-même être en mutation et du coup peut-être être complètement différent demain.
C'est une hypothèse, mais effectivement les hypothèses sont le spectre est très large en fait, ça dépend des métiers qu'on pratique. Il y a des métiers, effectivement, être en présentiel, même si on n'aime pas ce mot, il est assez explicite. Mais le bureau va plutôt se transformer avec des espaces beaucoup plus conviviaux. On le lit, on l'entend. Va falloir motiver le collaborateur pour qu'il vienne au bureau, mais motiver dans le sens apporter quelque chose de complémentaire. Donc le bureau va être transformé. Il y a des espaces qui ne trouvaient pas preneur, qui peuvent trouver preneur. Donc il y a des bonnes nouvelles aussi de ce côté-là. C'est-à-dire des pieds d'immeuble. Il y a toujours le sujet des pieds d'immeuble qui sont difficilement commercialisables. On peut très bien imaginer qu'une entreprise va prendre des mètres carrés à des coûts beaucoup plus attractifs dans telle ou telle région. Donc ça va renforcer une dynamique qui n'existait pas dans certaines villes. Et puis les maisons vont se transformer aussi. Les lieux d'habitation vont...
Alors on va en parler dans un instant, des lieux d'habitation. Je voudrais juste poser la même question à Patrick, parce que je sais qu'il a peut-être un avis un petit peu différent. Patrick, l'avenir du bureau, est-ce qu'il est au bureau ?
Alors moi, je crois, c'est ce qu'on disait hier en préparant cette émission, je crois dans la théorie de la machine à café. Bien sûr, le télétravail a fait une irruption indéniable dans notre mode de fonctionnement. Toutefois, je crois quand même au lien humain. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être mon âge qui me fait dire ça. Mais c'est assez difficile de nouer des liens humains au travers des webcams. Quand je parle de lien humain, je parle de lien humain positif, mais aussi de lien humain négatif. Il y a des fois des éléments qui sont...
On va rester sur le positif.
Ils
ne
sont pas toujours entendre, mais on va rester sur le positif.
Oui.
Mais le small talk, comme disent les langues, c'est-à-dire les petites conversations qu'on a en dehors des discussions de bureau. Et ce qui manque aujourd'hui, parce que dans les visios, c'est vrai qu'on est en plein dans
social,
le sujet.
C'est le lien social.
Mais comment ça va, les enfants, les petites discussions, ce qu'on a fait pendant le week-end, etc. C'est vrai que ça manque un peu et ça manque beaucoup à certains qui sont bloqués chez eux. Ça veut dire que demain, quand on sera peut-être tous vaccinés, crise sanitaire derrière nous, on touche du bois, on revient au bureau, on revient dans le même bureau, on y revient ventre à terre.
Alors,
j'adore l'image.
C'est une question quand même à 100 000 dollars. Moi j'aurais tendance à dire que, de même que sur le premier sujet que nous évoquions, il n'y a pas de vase communicant, il n'y a pas de théorie des vases communicants. C'est-à-dire que je ne crois pas que les mauvais bureaux d'hier fassent les bons logements de demain. Puisque fondamentalement, l'emplacement... est toujours la vertu cardinale d'un produit immobilier. Je crois que les politiques qui seront adoptées par les entreprises seront certainement à géométrie variable. Elles tiendront certainement au caractère de l'entreprise. Est-ce qu'on est une TPE ? Est-ce qu'on est une PME ?
Ça peut être une entreprise, moyenne ou une très grande.
Je pense que également, quel est le secteur d'intervention ? Je pense que les TPE, en matière de, de jeux vidéo, je pense que effectivement, vu la population d'actifs que cela cible, il y aura certainement un recours assez massif au télétravail. Mais on le voit bien, le coworking est là et c'est une réalité. Donc,
très bien. J'ai une dernière question. Si ça ne marchait pas, c'est-à-dire on a transformé les bureaux en logements, est-ce qu'il y a des règles pour, revenir sur, sur du bureau ? C'est-à-dire, au bout de combien d'années, on peut se dire ce bureau ne marche pas, ou ce logement ne marche pas, je reconfigure en bureau. Parce qu'on voit aussi des expériences qui sont faites aujourd'hui pour avoir ces modules. Et finalement, on a un lieu et on va l'habiller suivant les usages et suivant les desiderata du propriétaire.
Je dirais que le résultat va tomber très vite. C'est-à-dire que là aussi, attente du vendeur, si la faisabilité de transformation en bureau n'est pas au rendez-vous, moi, je pense que soit les discussions avec le promoteur sont assez soft. Et dans ce cas-là, le promoteur va engager une opération de démolition et non pas de restructuration, rénovation. Soit, vraiment il y a une opposition assez franche et massive entre les deux parties, dans ce cas-là, à charge pour le vendeur de retrouver un autre potentiel client.
En tout cas, on comprend bien à travers votre expertise, que c'est vraiment la clé du sujet et qu'il ne faut pas se rater finalement pour le promoteur, que l'expérience peut être assez catastrophique si c'est mal calibré. Je vous propose, chers amis, de passer à notre deuxième sujet sur les résidences secondaires après l'exode rural qu'on a connu, qui continue. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un exode urbain ? Voilà notre deuxième thème. Yadorich, pour introduire le sujet, c'est vrai que on a senti un engouement formidable. Alors évidemment, des Parisiens, on est aux premières loges ici, puisque le studio est à Paris. On a tous des amis ou des gens qui ont le bonheur d'avoir une maison de campagne qui sont échappés aux premières rumeurs de confinement. Pour autant, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène, cette redécouverte des territoires, comme on dit, qui va s'accentuer avec des gens qui pourraient là aussi changer de vie au gré des changements, au gré des mutations de l'environnement de travail ?
De ce qu'on entend, nous, on se réfère beaucoup...
Vous avez les chiffres.
Nous, on a les chiffres, mais on regarde surtout les chiffres des commercialisateurs, les chiffres de la Chambre des notaires qui, eux, sont sur le terrain, puisque, comme on l'a dit en préambule, nous, on ne fait pas de commercialisation, on ne fait pas de financement. Donc il y a, de ce qu'on constate, effectivement, il y a des personnes qui seraient attirées par d'autres régions. On peut être, nous, de notre lucarne, on se dit pour l'instant, c'est un peu un épiphénomène qui peut effectivement s'accentuer. Mais il ne faut pas oublier que les citadins que nous sommes, on aime bien avoir un bâtiment connecté dans un premier lieu. Il y a des régions, malheureusement, qui ne répondent pas encore à ce critère, mais on sait que les réseaux travaillent pour que cela soit fait et amélioré. Il y a même une politique territoriale qui va dans ce sens-là, parce qu'ils ont bien conscience que c'est un des éléments, un des facteurs qui fait que les familles vont s'installer dans tel lieu. Et après, on restera toujours sur les mêmes critères. On revient toujours sur la localisation. Il faut le petit village de 300 habitants, comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui, ça va attirer quelques personnes, mais il faut quand même des villes qui aient un centre hospitalier, une bonne école, des commerces de proximité, mais qui offrent pas loin des gares également. Donc toutes ces villes ou régions qui vont répondre à ces critères, il y a une probabilité qu'il y ait des transferts qui se fassent. Mais encore une fois... faut pas oublier qu'on a aujourd'hui un problème d'offre, c'est-à-dire l'acheteur qui souhaite quitter Paris ou l'Île-de-France ou les grandes agglomérations, il faut qu'il y trouve un plus pour se déplacer.
Alors justement, ça tombe bien qu'on ait Patrick Borghetti ici sur le plateau, puisqu'il est l'exemple vivant de quelqu'un qui a fui la grande ville, la capitale, dans laquelle il a travaillé de nombreuses années, pour s'installer eh bien, pas très loin, à Tours, Patrick, hein, pour rentrer, pour illustrer. Voilà, vous êtes notre grand témoin. Vous n'avez pas, je le disais, attendu une crise sanitaire, mais on y trouve son compte. On n'est pas dans le village de 300 personnes, on est dans une petite ville un peu oubliée, et là, vous nous racontiez en rentrée qu'aujourd'hui, vous avez depuis un an vu quand même une ruée, on peut le dire, sur Orléans, sur Tours, sur des petites et des moyennes villes autour de Paris à une heure de TGV, qui sont finalement ont presque la grande banlieue de Paris.
Effectivement, une évolution certaine. C'est-à-dire que on voit, et ça on le constate, alors je vais parler sous l'angle tourangeau, ne m'en veuillez pas, mais ce genre de sujet peut être décliné sur des localisations autres. Sur Tours, par exemple, la demande est forte. Mmh. Elle est forte sur des produits qui s'appellent les particuliers, qui sont des grosses maisons bourgeoises de centre-ville, où effectivement, vous aviez des prix d'entrée il y a 5 ans qui étaient plutôt à 500-600 000 euros. Aujourd'hui, vous êtes difficilement en dessous de 800 000. Donc c'est déjà un premier exemple. Je peux vous parler d'un autre sujet qui est des petits produits qu'on appelle la maison vigneronne dans des communes comme Vouvray, par exemple. Vouvray, vous êtes à un quart d'heure en voiture de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Ce genre de produit, dès lors qu'il n'y a pas trop de travaux et que le terrain correspond à une certaine demande, là aussi, aujourd'hui, difficile de se positionner en deçà de 400 000 euros, voire 450 000 euros. Donc, il y a une évolution certaine, et cette évolution marque encore un pas supplémentaire quand on voit que les appartements de centre-ville, maintenant, attirent une clientèle venue de Paris.
Mais est-ce que c'est une clientèle, je dirais, d'investisseurs qui se disent, bon, finalement, il y a une opportunité, ou est-ce que c'est des gens qui viennent réellement s'y installer, se dire, ben voilà, je vais profiter de la douceur de ce territoire.
La douceur tourangelle. Il y a bien sûr quelques investisseurs, mais il y a surtout une clientèle d'utilisateurs.
D'accord.
Puisque, bon, là aussi, parlons chiffres. 125 mètres carrés dans le centre-ville, pour un beau produit, vous allez trouver ça entre 400 et 500 000 euros.
Mmh. Ouais, d'accord.
Ça fait rêver beaucoup de Parisiens.
Oui, mais surtout qu'on peut très bien tout à fait imaginer de vendre quelque chose de 35-40 mètres carrés et puis passer à deux ou
c'est
trois fois plus.
C'est l'effet enrichissement, absolument.
Exactement. Et ça, quel que soit, parce qu'il y a peut-être un effet âge aussi, à un moment où c'est vraiment...
Mais je crois que, comme le disait Baya, dès lors que, alors non pas l'emplacement, mais les vertus cardinales de l'immobilier sont là, c'est-à-dire, oui, des écoles, des hôpitaux, des médecins, l'accès facile aux moyens de transport, pour reparler de Tours, c'est quand même au centre d'une étoile autoroutière, hein, vous êtes assez rapidement sur l'océan Atlantique, vous êtes quand même très rapidement à Paris, c'est vrai que dès lors que ces paramètres sont au rendez-vous, je crois que... D'ailleurs, j'étais même étonné, je dois dire, hein, que les prix n'aient pas pris leur envolée plus tôt, parce que les paramètres fondamentaux sont là.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en visitant en plus sont des villes, les centres-villes, à l'instar, je dirais, toutes les gares SNCF hein, qui ont été complètement rénovées, je trouve que c'est des villes... Alors, il n'y a peut-être pas un dynamisme économique extrêmement important, mais en tout cas, il y a une vraie... le centre-ville est très charmant, et puis on sent que voilà, il y a vraiment quelque chose à voir. Donc, allez-y. Patrick vous accueillera avec joie. Vous avez parlé quand même... c'est la première chose que vous avez citée, et c'est vrai, l'éligibilité Internet, c'est hyper important. C'est pratiquement quand on arrive, ou voilà, pour quelqu'un qui veut s'installer ailleurs, c'est ce qu'il va tester en priorité.
Complètement, ou même ne pas tester, pour lui ça va être tellement une évidence qu'il peut avoir la surprise de pas avoir
tiens, ça passe pas.
Ça passe pas, c'est-à-dire on a des habitudes de consommation qui nous paraissent tellement naturelles que on pense pas forcément à poser la question. Donc l'éligibilité, c'est primordial. Les écoles, hein, on sait, la qualité des écoles, c'est un des premiers éléments également qui est regardé par les familles. et les hôpitaux. Alors les hôpitaux, on y pense un peu plus quand on avance en âge ou quand on a des enfants. Donc il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi, on parle beaucoup des régions, mais il y a le côté première couronne de chaque agglomération, deuxième couronne. Moi, je vois, je suis en première couronne en région parisienne. J'ai jamais été autant sollicité pour vendre le petit pavillon avec jardin.
Vous êtes où ?
Sur Montreuil.
D'accord. Ah oui, bon, Montreuil.
Et oui. Mais il y a quand même un phénomène
très couru.
Très couru, mais de plus en plus couru et des produits de plus en plus recherchés. Et je pense que la crise sanitaire aussi nous a fait réaliser beaucoup de choses. Et dans les choses dont on a pris conscience, c'est de dire on va arrêter de courir. Ce temps passé dans les transports, ce temps à jongler, aller chercher les enfants, aller avoir des plannings surbookés et à être dans des espaces qui sont bétonisés, parce que le sujet de la ville aujourd'hui, c'est ça. Hein, les gens aspirent à des espaces verts parce que les villes sont de plus en plus bétonisées, déshumanisées. Donc il y a une révolution qui était déjà en marche il y a un certain temps, qui, par la crise sanitaire, subit un phénomène d'accélération.
La véritable prise de conscience, on l'a vu avec des Français, hein, il y a eu beaucoup de sondages, plus de verdure, plus d'air, plus d'espace aussi. Et ça, à un moment, c'est vrai qu'il faut faire quelques kilomètres supplémentaires à budget équivalent. Il y a aussi un modulo qu'il faut ajouter. On parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup de connexion. On est quand même chez une catégorie de col blanc. Hein. C'est-à-dire que, Patrick, évidemment, celui qui, on imagine, sur un métier manuel, celui qui doit aller à sa boulangerie tous les matins, là, il ne va pas pouvoir faire 100-150 km.
C'est assez compliqué. Effectivement, c'est assez compliqué. Ça réserve ça, effectivement, à une catégorie de population, souvent des cadres, d'ailleurs. Ce que je voulais peut-être dire également, c'est que, en complément de ce qu'on abordait précédemment, c'est que ce phénomène de... Alors, non pas de résidence secondaire, comme on le disait précédemment, mais plutôt de mutation en termes de résidentialité, c'est que ça a profité, aux deux segments du marché, aux deux extrêmes du marché, des petites maisons rurales avec un bout de jardin dans des petites communes qui encombraient les stocks depuis des années sont partis à 50 000, 70 000 euros. Mais ça a profité également à des produits plus qualitatifs, haut de gamme, notamment on pense au fameux manoir en Normandie. C'est vrai que ce genre de bien qui était souvent proposé entre, on va dire, 500 000 et 1 million d'euros, avait quand même certaines difficultés à partir, à être écoulé, à connaître un écoulement, pardon. Là, depuis le confinement, je crois que le déclic semble avoir été posé.
Après, c'est un choix, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on préfère 80 mètres carrés dans le 18e ou dans le 20e à Paris, ou bien une jolie maison de campagne avec un peu de terrain. Ça, je pense que ça dépend de tout un chacun aussi. Peut-être, vous le disiez, il y a des différents âges, des stades d'avancement, quand on a des enfants, pas d'enfants, quand on a aussi un boulot, parce que certains, à l'inverse, ne peuvent peut-être, il y a peut-être certaines professions qui ne peuvent pas quitter Paris. Quand on est manager ou dans son conseil d'administration, c'est aussi compliqué de s'éloigner trop du centre névralgique. De pouvoir et de décision.
Oui, et puis il y a des gens qui ne veulent pas quitter Paris, qui adorent être sur Paris, dans les grandes villes. Il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait de l'agitation. Voilà, alors on parle hors crise sanitaire, hors mesure sanitaire.
Ouais, mais puis là, c'est pas folichon, Paris, quand même.
Non, voilà,
tout est fermé.
C'est plutôt
on
calme.
On ferme à 6h.
Il y a des personnes, vous les montez en haut de la montagne, entourées de sapins ou de silence, c'est pour eux, c'est oppressant. Donc il y a chacun peut avoir une appétence pour vivre dans tel ou tel quartier, mais c'est vrai que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, encore une fois, on peut se dire c'est possible. Évidemment, c'est rattaché au métier qu'on fait, ou des personnes qui vont complètement changer d'activité professionnelle en se disant. il y a un champ de possibles qui est en train de s'ouvrir.
Ouais. Et puis je le disais à l'inverse, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai, les villes, d'une manière générale, c'est pas très très intéressant. On y fait beaucoup moins de choses quand les cafés, les restaurants, les cinémas, les hôtels, les théâtres sont fermés. C'est un peu plus compliqué. Est-ce que le jour où tout va rouvrir et on va reprendre la vie d'avant, est-ce qu'il va y avoir au contraire l'exode dans le sens inverse.
Le chemin inverse.
Est-ce que, Patrick, par exemple, vous voyez revenir dans 50 mètres carrés en Paris ?
Déjà, jamais connu.
Sans balcon.
J'ai jamais connu. Mais je ne crois pas. Parce que, je suis plus inquiet, à vrai dire. Mais ça, c'est une opinion qui m'est personnelle. De même que, comme le disait Baïa, dans... C'est le propre de l'esprit humain que de décliner la variété. Donc, moi, je pense que dès lors que le pas est franchi, dès lors qu'on choisit d'aller à Rouen, à Tours, à Reims, ou dans des villes comme Arras, par exemple, je suivais ça récemment, l'immobilier sur Arras fonctionne très bien. Mais je crois que là aussi, on s'est rendu compte de la réalité. C'est-à-dire que finalement, Arras, ça doit être en TGV, je ne sais pas, une heure, quelque chose comme ça, ou une heure et quart. Et finalement, c'est très court. C'est bien plus court que d'aller au Péreux. Alors, je suis plus inquiet pour les gens qui ont choisi peut-être des solutions de demi-mesure, des villes qui pour l'instant sont pas très bien desservies, ou en tout cas pas desservies par le TGV. Parce que c'est vrai que Chartres, Sens, etc., enfin, je ne veux pas mettre l'opprobre, loin de moi, cette idée sur ces villes-là, mais les moyens de transport sont des transports TER. C'est toujours un petit peu plus compliqué que les TGV. Les TGV fonctionnent d'une manière générale, relativement bien.
D'accord. Baïa, commentaire là-dessus. C'est l'effet TGV qu'on a connu dans les grandes villes où, c'est vrai, il est arrivé. On pense à Bordeaux récemment.
Parfois avec
même
excès.
À Marseille.
Parfois avec excès.
Peut-être. ce sera un autre sujet, ce sera le prochain.
Oui.
Mais pour ceux qui, justement, se positionnent, commencent à regarder, peut-être. C'est le corollaire de la crise aussi. On a beaucoup d'épargne en ce moment. Donc, il y a forcément des gens qui font des projets, qui se disent qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'on en parlait pour les institutionnels, mais pour le particulier, c'est pareil. Regardez le taux de votre livret A, c'est pas ça qui vous rend riche. Alors que l'immobilier, il y a peut-être encore des opportunités dans des zones qui vont prendre en valeur.
En fait, étant dans l'immobilier, je pense que mes confrères qui travaillent aussi en immobilier, on nous interroge toujours sur le meilleur placement. Alors le meilleur placement, c'est déjà, ça dépend du projet de vie, ça dépend de plusieurs paramètres, mais la vraie question, c'est toujours d'acheter au bon prix. C'est-à-dire, même si vous avez tous les critères, les paramètres qui sont cochés dans votre réflexion, mais si vous n'avez pas acheté au bon prix, au moment de la revente ou au moment de mettre en location votre bien, vous ne retrouverez pas vos billes. Et c'est toujours la question du prix, en fait, qui est importante. Après, c'est pas pareil. Quand c'est pour y vivre et qu'on a un coup de cœur et que on a les financements qui suivent derrière, faut se faire plaisir. Mais toujours attention. Effectivement, il y a le prix au mètre carré, mais il faut pas oublier toutes les charges qui courent autour d'une acquisition, que ce soit pour sa résidence principale, secondaire ou pour un investissement. C'est toujours la partie cachée de ces financements et qui peuvent amener à certaines difficultés certains citoyens ou investisseurs qui n'ont pas suffisamment regardé ce paramètre.
C'est l'effet taux. Je pense que c'est l'effet taux qui risque de masquer aux yeux de certains acquéreurs les paramètres fondamentaux d'un produit immobilier.
Ouais, donc attention, l'argent n'est quand même pas gratuit et puis on est dans une période aussi pas extrêmement simple, donc il faut bien calibrer ça, essayer d'anticiper, Patrick vous l'avez dit, peut-être sur des zones bien desservies, qui vont profiter, qui sont peut-être d'ailleurs sous-valorisées, méconnues aujourd'hui et qui demain vont profiter. On voit pas mal d'affiches aussi dans le métro qui font la promotion des différentes régions.
Châteauroux, j'ai vu que Châteauroux faisait de la promotion. Je pense, là aussi, des villes qui sont tout à fait loin dans le classement. Des villes comme Saint-Étienne, là aussi, j'ai aucune espèce de, d'affiliation ou de connotation sympathique avec Saint-Étienne, mais avec un prix moyen ou un prix médian à 1 000 euros du mètre carré, je pense que c'est vrai qu'on est vraiment dans des niveaux extrêmement bas. Et si les valeurs immobilières venaient à poursuivre leur progression, il ne faut pas oublier quand même la notion d'effet d'endettement, de taux d'endettement. Et c'est vrai que c'est quand même toujours plus facile de s'endetter dans des villes comme Saint-Étienne que dans des villes où maintenant les valeurs immobilières sont très élevées, comme serait-ce que dans sa prestigieuse voisine, Lyon.
Exactement. Donc, toujours pareil, hein, les mêmes règles en immobilier, emplacement. Et puis essayer, effectivement, de faire les meilleures affaires, en tout cas de payer le bon prix, voire un petit peu en dessous, si on peut. On arrive au terme de cette émission, les mutations et les valeurs immobilières du résidentiel. Voilà, on a vu les transformations de bureaux en logement. On a vu aussi ces résidences secondaires, ou en tout cas cet exode qu'on a vu. On a vu que c'était pas encore ça, ou que ça pouvait être réversible là aussi. En tout cas, un grand merci à nos deux experts du jour, Patrick Borghetti et Baïa de Rich de Galtier Évaluation. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission spéciale. Très bonne soirée à tous.
Émission spéciale, mutation et valeurs immobilières du résidentiel en partenariat avec Galtier Valuation, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.